fort qu'on voit éclairé de lune le sentier peu sûr. Dans un coin des femmes bercent des petits, ils viendront un soir habillés de flammes, habillés de cris, payés en dollars. Les bruits montant du Rio, c'est la faim qui rôde, on attend la pluie, un campesino.
Eh bien, bonjour et bienvenue sur Radio Libertaire pour cette nouvelle émission Livre en lutte. Aujourd'hui, on accueille Nicolas Grelenzoni. Bonjour Nicolas. Pour son livre Le Grand Final, je vais commencer par un petit extrait. Les communards sont morts, partis en exil, déportés, mais ils sont toujours là. L'histoire n'est pas linéaire, les faits se nichent dans ses plis. Et quand tu penses que rien ne bouge, ils te sautent au visage, prêts à se remettre en mouvement, sans que personne puisse savoir pourquoi et comment. Donc un joli petit bouquin qui a déjà été édité en italien, puisqu'il est écrit à quatre mains, et qui vient de sortir en français. Est-ce que tu peux nous dire, donc on a compris que c'est autour de la commune, est-ce que tu peux nous dire comment est né ce livre ?
Oui, donc l'idée c'est, on l'a écrit en 2021, il est né un peu comme un jeu, mais aussi une manière de faire face à un peu la situation locale et international en 2021. En particulier, on était encore en pleine pandémie de Covid. Et moi, en particulier, j'étais entre deux contrats de travail. Avant, je pensais pouvoir un peu bouger, chose qui n'était pas le cas. Et puis, donc, j'étais calé à Paris. Et je me suis dit, j'ai eu comme ça, comme une idée de la fin d'une histoire. Et... d'une fable, d'une histoire, d'un roman. Et puis j'ai contacté un peu des gens parce que j'avais pas envie de le faire tout seul. Et puis une autre personne a mordu à l'hameçon. Et cette personne, c'était mon père, qui lui était reclus, entre guillemets, à la campagne en Toscane. Et donc on s'est lancé dans cette aventure à distance d'écrire une histoire un peu loufoque qui se déroule pendant les 72 jours des 150 ans de la Commune de Paris. Et voilà, donc on a écrit ce bouquin et on l'a écrit bon an mal an, ça nous a pris 72 jours.
Exactement, pendant la célébration, tu veux dire.
Oui, donc le livre s'achève le 24 mai 2021 dans le livre. Et voilà, et on est en pleine commémoration de la semaine sanglante de la Commune de Paris. Oui.
Donc écrit à quatre mains, ton père l'a écrit en italien, toi en français. Et en même temps, le style est tout à fait homogène en fait. C'est fluide. Et je crois qu'il y a une explication.
Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, moi j'écrivais en français. Bon, moi je suis italien à l'origine, mais j'ai beaucoup vécu dans des pays francophones. J'ai grandi en Belgique, puis j'étais en France, en Suisse, etc. Et maintenant à Paris. Mais j'étais plus à l'aise à écrire en français, puis le bouquin se déroulant à Paris et les personnages étant parisiens, pour moi c'était évident d'écrire en français. Mon père, lui, écrivait en italien, et donc à la fin de ces 72 jours, on s'est retrouvé avec un bouquin qui était moitié en italien, moitié en français. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, mon père a traduit toutes les parties françaises en italien, et après moi, j'ai fait l'inverse, ce qui a permis, d'une certaine manière, de, on va dire, harmoniser l'écriture. Voilà, et donc c'est vrai qu'on nous dit qu'on ne ressent pas la présence de quatre mains, quoi. Je veux dire, il n'y a pas tout à coup des variations de style ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est la traduction qui a permis de lisser, on va dire, ça.
Alors, en fait, tu me disais que ton père et toi, vous n'aviez pas toujours les mêmes idées. Un petit peu quand même. Enfin, je veux dire, vous vous rejoignez sur pas mal de choses.
Bah, disons que oui, on a, on va dire, ce qu'on appelle un background culturel commun. Après, moi, bien sûr, j'ai mon père est de 45, moi, je suis de 72. Et donc, ben, bah, c'était sympa d'écrire. Bah, parfois, on s'est quand même pris la tête sur ce qu'on voulait mettre, pas y mettre. On n'était pas d'accord et tout. Mais au fait, ce qui était chouette, c'est que pour finir, on a décidé de... quand on n'arrivait pas vraiment à trancher, bah, au fait, ces divergences devenaient des divergences entre personnages. Donc, on a transposé dans des, pas nécessairement des prises de bec, hein, mais des discussions, des positions de personnages différents. Alors que le narrateur, lui, reste neutre, quoi. Donc, voilà.
En fait, vous avez intégré au livre vos désaccords, en fait.
Exactement, ouais, on a fait... Dans la dialectique, on est arrivé à cette synthèse, comme diraient les Marxeux.
Ok. Alors, bah, ton père avait commencé Coco, après il a fini plus libertaire. Et toi, tu étais à la UFA.
Oui, disons que bah, de toute façon, bien sûr qu'il y a quelque chose qui nous. Bien sûr que le narrateur n'est pas neutre. Il y a un message qu'on essaie de faire passer. Maintenant, on a voulu aussi. Je veux dire, c'est une fable et c'est aussi une manière de inventer, proposer un imaginaire où à la fin ben on gagne, quoi. Chose qui parfois peut arriver.
C'est une revanche.
Oui, on peut considérer ça comme une revanche. Maintenant, notre envie était aussi de bien sûr, citer la Commune de Paris, qui est un événement très, très important, mais aussi ce que j'ai pu remarquer, surtout au moment des 150 ans de la Commune, c'est que, chose qui était aussi importante, hein, mais il y avait beaucoup de choses, effectivement, d'ordre historique, rappeler ce qui s'était fait, etc., ou bien carrément un peu, on va dire, nostalgique, larmoyant, parfois presque à la limite de la géographie, quoi. Les grandes figures, les martyrs, les gens qui sont morts. Dire, bon, ça va. Nous, ce qu'on avait envie de dire, c'est un peu comme dans la chanson, hein, la Commune, elle n'est pas morte. Mais on ne va pas juste évoquer combien les Versaillais étaient méchants. Mais on essaye de récupérer les idées et l'imaginaire de la Commune. Dans le présent.
Alors tu m'avais dit, ce qui nous sauve de la nostalgie de la Commune, c'est qu'on est italien.
Oui. Probablement. En fait, on n'a pas ce même rapport que peuvent avoir les Français, on va dire, de gauche au sens large, qui pour eux ou elles, c'est quand même un moment fondateur, quoique c'est quand même un des premiers mouvements, on va dire, sociaux et révolutionnaires internationalistes. Il y avait des Italiens dans la Commune. Et par exemple, on a décidé qu'un des personnages du livre, il s'appelle Enrico Cipriani, et c'est un personnage, c'est un communard italien. Il était à Paris, donc c'est un petit clin d'œil qui avait pas, parce que c'était un moment où la commune avait décidé que bah, tous les gens s'en foutaient de la nationalité. Si t'étais là, ben t'étais communard et t'avais les mêmes droits que tout le monde, quoi. Homme, femme, noir, blanc, jaune, vert, ça n'avait pas d'importance, quoi.
Alors c'est un personnage qui est au début berger en Corse, qui a dû quitter l'Italie 30 ans avant, donc on se doute que c'est lié un peu aux années de plomb. Tu parles d'un nanar vaincu, passionné par le polar et la commune.
Oui, donc ça c'est en particulier le libraire, hein, l'italien. L'italien, effectivement, c'est un personnage qui est probablement de la génération de mon père. On va dire 45, né en 45, qui a fait 68, qui après s'est retrouvé en France, on ne sait pas très bien pourquoi, mais au moment où Mitterrand n'expulsait pas vers l'Italie ceux qui étaient accusés de participation à la lutte armée, etc., etc. Mais après, à un certain moment, au bout d'une dizaine d'années, dans les 20 ans, il décide qu'il en a marre même de Paris et de ce milieu militant où il y a aussi un peu une espèce de fascination pour des jeunes, pour ces vieux qui ont fait les années 70, les années de plomb, l'autonomie. Il dit, bon, c'est bon, on arrête. Et il se barre et il se retrouve après en Corse à être berger. Et puis, il est ramené sur Paris parce qu'on l'appelle, parce qu'un vieux copain à lui, ce libraire, est décédé et lui a laissé quelque chose. Et donc il revient de Corse, il prend le bateau et il revient à Paris alors que ça fait 30 ans qu'il est parti, quoi.
Alors t'habites Vitry, et bon, le film commence par un braquage de fourgon avec des masques de Dali. Il y a un des trois attaquants qui fait un tag et les gens applaudissent. Bon, c'est une fiction. Mais c'est sûr que ta philosophie, c'est un peu ne pleurons pas les communards, soyons communards. Et ton bouquin est assez jouissif, il faut le dire. Et je disais, tu habites à Vitry et on se retrouve place de l'église à Vitry, on se retrouve à Ivry, on se retrouve au resto le Temps des Cerises à Paris, dans les catacombes. Après, tu as un personnage qui vit dans un squat rue du Marais. Est-ce que ce squat existe ?
Alors, il n'existe plus, ce squat. Ah ouais. En fait, c'était un squat un squat plutôt d'artistes et des gens aussi qui logeaient. Et au moment où je l'ai mis dans le bouquin, j'ai demandé aux copains et copaines si je pouvais citer la rue. Et ils ont dit non, laisse tomber. Voilà. Et donc, en fait, la rue ressemble phonétiquement très très fort à ce qui est écrit là, mais c'est pas celle-là. Après, entre temps, maintenant on peut le dire, le squat s'appelait le Pilos, il n'existe plus, il a été rasé, on a construit des appartements à la place, mais et les gens qui étaient sont partis, ils vont tous bien, hein, ils sont partis ailleurs. C'était juste que c'était cette occupation, cette convention d'occupation précaire est arrivée à son terme. Et effectivement, ils ont tout rasé et ils ont construit au moment où ils ont commencé les travaux, quoi.
Mais le Pilos, il y en a bien un autre qui s'appelle Pilos maintenant ?
Ça, je sais pas.
Non ah, je croyais. Non. Ok. Donc, il y a des squats. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Il dort aussi dans une librairie, à un moment, ton personnage. Et tu parlais de spectacle. En fait, il faut savoir que tu déclines ce bouquin, tu en as tiré une fable. Un spectacle pour enfants, que tu as déjà produit à Bruxelles.
Non, pas encore non. À Bruxelles, pas à Marseille.
À Marseille. Ah oui, à Marseille, ça c'est sûr. À la DAR, c'est ça?
Ouais.
Et puis, donc tu l'as fait à Vitry, devant une librairie. Alors c'est difficile de parler du spectacle sans dévoiler la fin du bouquin. Donc un spectacle pour gamins, et tu vas le refaire en fin d'année, début décembre, puisque tu seras invité au Festival du roman noir et social de Vitry-sur-Seine, puisque cette année il y a 11 classes dans 5 écoles, avec 150 ou 200 gamins qui suivent des ateliers d'écriture de nouvelles. Et donc c'est la première fois qu'on va faire un spectacle pour enfants, et là donc dans le genre éducation populaire, un spectacle pour enfants autour de la commune, je trouve ça assez génial. Et donc t'as dû réécrire, t'as un peu changé, donc c'est pas les mêmes personnages en fait.
Oui, donc c'était l'histoire, cette idée est née l'été dernier, parce que je suis allé chez des amis en Suisse, des musiciens qui ont contribué au bouquin, on pourra en revenir après et tout, et qui vont eux venir jouer le 24 mai à Paris. Et je sais que là-bas, il y avait des enfants dans c'est une structure où on peut aller en tant que faire des résidences d'artistes. On ne paye pas, c'est basé juste sur le principe du don. Et donc il y avait des gamins. Et puis, ça m'était aussi arrivé de parler avec d'autres petits. T'écris un livre, mais ça parle de quoi? Et effectivement, le livre qu'on a écrit, il peut se lire, on va dire, à partir de 15-16 ans. Et donc, je me suis dit, mais peut-être qu'on pourrait en faire une transposition, d'abord en fable, puis en conte. Et là-dessus est né un spectacle où, effectivement, on a adapté. Et donc c'est un spectacle conté qui est en deux actes, et dans le premier acte on raconte la commune de Paris un peu transformée, et par contre dans le deuxième acte c'est une adaptation du livre, et c'était chouette parce que ça, on l'a construit avec plusieurs personnes, même des enfants qui ont contribué. Il est présenté, il y a une voix, il y a un narrateur qui est présent sur scène. Il y a des voix des personnages qui sont, elles, enregistrées. Et après, il y a le décor qui parle. Et à la fin, c'est le public qui participe au grand final. Parce que le livre se veut un livre collectif qui se termine dans un grand final, qu'on ne va pas vous dire ce que c'est. Et on trouvait que c'était chouette que le public soit amené à être vraiment acteur de ce final. Ouais.
Alors, j'ai quelques... Tu m'as amené des pistes. Donc, celle sur les personnages, je peux commencer...
Oui, alors peut-être ce que je peux faire, c'est que je peux juste lire le début du mois, parce que de comment s'introduit le spectacle, et puis ça prend 2 secondes, hein, c'est 4 lignes. Donc, comme ça, vous comprenez un peu le style. On raconte qu'il y a de cela bien longtemps, mais pas si longtemps que ça, très loin d'ici, mais tout compte fait, pas si loin, vivait un empereur nommé Champollion III. Trois, parce qu'avant lui, il y en avait eu d'autres, nommés Champollion Ier et Champollion IIe. Champollion III vivait comme ses aïeux, dans la terreur et la violence. Il contrôlait son peuple d'une main de fer, et qui osait lui tenir tête la perdait aussitôt. Et là, on peut écouter. À un certain moment, il y a les communards qui rentrent en jeu.
Bon, on les a foutus dehors, tous ces bourgeois. On fait quoi maintenant?
Ben, on s'organise.
Mais comment va-t-on faire? Qui va décider? Il n'y a plus de chef?
Il faut faire des élections.
Des élections? Pour faire quoi?
Pour élire des nouveaux chefs.
On s'est débarrassé des anciens. Tu veux tout de suite en trouver des autres? T'en as pas marre d'obéir?
Oui, mais sans chef.
Oh, on se calme. Essayons d'abord de décider ce qu'on veut. On verra ensuite comment le faire, et s'il le faut, on nommera ensemble qui va s'en occuper.
Ah oui, ce n'est pas bête.
Ah, mais ça va être la foire. On ne va jamais tomber d'accord.
Arrête de râler. On n'a qu'à essayer.
Moi, je veux pouvoir travailler.
Moi, je veux être l'égal de l'homme.
Moi, je veux qu'on respecte mon vieil âge.
Moi, je veux pouvoir bien manger.
Oh, 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 hey, attendez. On va mettre ça par écrit.
Moi, je veux pouvoir aller à l'école et apprendre à lire et écrire.
Moi, je ne veux plus être l'esclave des patrons.
Moi, je ne veux plus aller à la guerre pour enrichir ces pastèques de gros riches.
Moi, je veux le paradis sur terre.
Moi, je veux être payé équitablement.
Moi, je veux du chocolat.
Imaginez un instant que les pauvres de mon empire fassent de même. Qui continuerait à accepter de vivre pauvrement? Qui travaillerait pour une miche de pain? Et qui partirait encore à la guerre pour nous enrichir?
Pas de quartier. Il faut rétablir l'ordre républicain.
Voilà, on a pu entendre quelques-uns des personnages. Et alors, tu nous donnes rendez-vous aussi à Paris, parce que tu montes, tu vas te produire aussi, enfin, tu vas faire un truc.
Oui, donc, en fait, sur Paris, il y a deux dates. Alors, la date un peu qui est ce qu'on... le gros événement, ce qu'on a appelé le grand final 2.0, 4 ans après, en citation du roman 20 ans après d'être de Dumas, c'est donc le samedi 24, en fait c'est le jour de la montée au mur des fédérés, donc on est en la commémoration de la Commune de Paris, et donc à partir de 17h dans le 13e arrondissement, au Nouveau Cosmos, donc sur la dalle Olympiade, on va faire une grosse fête, un gros événement où il y aura le spectacle, la présentation du livre, un vernissage de photographies et de peintures inspirées du bouquin, des concerts, on mange, on boit, on est ensemble, c'est un peu l'esprit du bouquin aussi. Hein. Voilà, et la veille... Le vendredi à 18h à la Butte aux Cailles, à la place de la Commune de Paris, je trouvais que c'était assez symbolique, on va jouer le spectacle en plein air, parce que on avait envie de le jouer, on va le jouer là-bas.
Et donc il y a des gens qui t'ont recomposé le temps des cerises spécialement pour le spectacle, c'est ça?
Ça, c'était vraiment au moment du livre, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a beaucoup, pour certains aspects du livre, on est allé chercher un peu des informations sur des choses qu'on ne connaissait pas. Et entre autres, il y a un aspect de la musique, etc. Alors, ce qui est marrant, c'est que certaines de ces personnes, on va dire personnes ressources, sont devenues des personnages transformés dans le livre. Et j'avais demandé, moi j'étais pas très satisfait de toutes les versions que j'avais entendues, elle est très belle, hein, du temps des cerises. Et donc j'ai ces deux amis, Claire Huguenin qui est chanteuse et Malcolm Braff qui est pianiste. Et je leur ai demandé s'ils voulaient pas, eux, faire une nouvelle version du temps de cerises qui est jouée... est cité à la fin du livre, et donc ils l'ont réellement composé, et c'est eux qui le 24 mai vont venir jouer avec leur groupe Green Woman au nouveau Cosmos.
Eh bien écoute, on va s'écouter un petit morceau, on se fait une petite pause musicale. Du piano, il y en a aussi dans ton livre, parce que on entend le jazz de McCoy Turner. On a les mots Debord, Fajardi, l'auteur Gontcharoff aussi, que je connaissais pas. Et il y a plein de personnages dans ton bouquin, c'est assez foisonnant, qui se croisent, t'as mis plein de choses. Et tu me disais en même temps, tu voulais pas en faire des héros.
Oui, l'idée c'est que on a... Sans rentrer dans le détail, mais en fait, c'est... Bon, après, c'est aussi un schéma classique, hein, parce que même, peut-être même dans les sept mercenaires, c'est comme ça. Hein, mais je dirais, ils sont sept. Là, ils sont même plus que sept. Un peu l'idée, c'est que l'histoire est menée par une bande de personnes d'âge, de milieux différents et tout, qui est un peu par hasard... se retrouve, se prend au jeu d'une fable, et puis un peu comme dans un jeu d'enfant, que peut-être tout le monde a fait, a commencé à se dire, et si on disait que, et puis tout à coup c'est devenu, et si on le faisait et dans cette dans ce groupe, on va retrouver des gens très différents. Alors la chose qui est aussi intéressante, c'est que des retours des lecteurs ou de lectrices, en fait, on se rend compte que en fonction de l'âge de la personne, de son passé, il s'attache plutôt à l'un qu'à l'autre. Donc on a eu un personnage, Bertrand, qui est un syndicaliste d'Aulnay-sous-Bois, un métallo qui s'est retrouvé au chômage et qui est un peu un coco cégétiste pur et dur et tout. Et j'étais très content que quand on est allé présenter à Marseille, il y avait une dame qui a écrit à Madame Bitton, qui avait une sociologue, qui a écrit un bouquin sur la commune de Marseille. Elle, lui, c'était vraiment le gars qui était là, ouais, mais sans lui, ils n'auraient jamais pu y arriver et tout. Pour elle, ça lui parlait. Alors que peut-être, quand on a écrit ce gars, un peu comme avec tous les personnages, on se fout un peu de sa gueule aussi. c'est parfois un peu des caricatures, mais par ailleurs, on a essayé de les rendre vrais. Et peut-être une chose, au moins pour ma part, ce que j'ai beaucoup fait, pas pour tous, hein, c'est que des personnages aussi se sont un peu, ben, peut-être beaucoup d'écrivains français, hein, écrivaines, c'est que les construisent à partir de vraies personnes, vraies personnes. Et après, il y avait il y a carrément des personnages où il y avait aussi une, pour moi, il y en a un, Lolo, qui est batelier. En fait, il est calqué sur un copain à moi qui est décédé il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années. Et pour moi, c'était important de, je veux dire, bon, c'était un peu une manière de lui faire hommage, mais aussi de le refaire. Il est présent dans ma mémoire. Il est toujours là, mais là, il reprend vie dans le livre, quoi. Parce qu'après, là, étant donné que... je veux dire, là, mais vraiment, on a un peu changé, mais c'est lui, quoi. Non, après, les gens, ils ne le savent pas. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on est amené à y placer des personnages, au même titre que les prises de tête avec mon père, ou des prises de tête que j'ai pu avoir avec des gens, ou des discussions que j'ai pu avoir et tout, c'est pas le... on se revendique pas d'être des écrivains professionnels et tout, mais peut-être c'est une manière de rendre les choses vraies. C'est pas qu'on s'est mis là avec notre stylo à imaginer un dialogue, à imaginer un personnage sortant d'un chapeau, quoi. On s'est appuyé sur du concret, sur du vécu. Donc, peut-être c'est pour ça aussi que ça marche.
Mais c'est drôle, oui, c'est ce que tu dis, il y a plusieurs niveaux de lecture et chacun trouve un peu ce qu'il veut. Et pour tes soudeurs, parce qu'à un moment dans le projet, il faut recruter une dizaine ou une quinzaine de soudeurs qui vont plutôt dessouder quelque chose. Et donc c'est là qu'ils se dirigent, les personnages, vers une commune où il y a eu une grosse activité industrielle qui a disparu. Et reste là les anciens leaders cégétistes, et en quatre lignes, il y a un petit hommage qui est rendu à ces gens-là, qui n'ont rien lâché, même s'ils n'ont plus rien. Mais, et voilà, on peut en rire, mais en même temps, c'est un hommage. Et alors, on va pas encore évoquer plus ou moins la fin. On croise. Moi, j'aurais aimé passer une autre musique, puisqu'il n'y a pas longtemps, donc on s'est retrouvé dans un concert punk. Bon, hier, ok, mais il y a un mois aussi, c'était nos amis de Social Crash qui avaient organisé un concert à la Kunda. Elle a plus loin KUNDA, qui ont un projet, je crois, fin juin ou début juillet, je ne sais pas si c'est pas pour la Palestine. Donc, où on a pu découvrir trois groupes de musique. Il y en a un que j'ai adoré, donc je vais passer un morceau. Et c'est en rapport avec la commune. C'était dans un tiers-lieu.
Bon, oui, un squat.
Ouais, c'est un squat. Il n'aime pas que je dise tiers-lieu. Et donc, je vous propose d'écouter cette chanson. Donc, le groupe, c'était Swimming Pool. Et alors, le truc, c'est que la chanteuse Angela, elle ne chante que des poèmes de poètes, donc, qui ont existé. Donc, elle chante du Lacénaire, elle chante du Jules Jouy, donc, qui a connu la commune, puisqu'il a fait 3000 chansons, du Baudelaire, du André Laude. Et ça marche super bien. Bon, elle a une super voix en concert, et des petits riffs de guitare qui sont super. Et elle a un charisme, je trouve. Il faut pas que l'écouter, il faut aussi la voir. Donc on va passer un petit morceau, ça s'appelle Au mur.
Ça sent le trou de la mitraille.
Voilà, c'était Swingpour, P2OR. Donc, Swingpour, ou les copains de Social Crash, ben, on pourrait les suivre sur le site Razibus. C'est vrai que ça bouge pas mal dans le punk, là, en ce moment. C'est, les beaux jours arrivent, mai-juin. Il y a beaucoup de dates, notamment à Montreuil. Alors, ce qui fait le charme du bouquin, effectivement, c'est que chacun peut... Enfin, il y a plusieurs interprétations possibles. Et tu as choisi une fin qui est assez double. Il y a une fin très poétique, voire onirique, et une qui se double d'une fin un peu plus violente. On rejoue un peu le match Caserio contre Sadi Carnot, c'est un petit peu ça. Et on retrouve donc ce rêve d'une revanche bien méritée. Et il y a une jolie fusée qui fait une jolie courbe et qui va remettre un petit peu de désordre dans cette société, pour remettre un peu les choses à plat. Alors après, chacun choisit, et comme tu disais, au niveau de cette violence, on reste dans le symbolique. On peut choisir de rester dans le symbolique.
Bah, disons que... Bah, en fait, en réalité... Alors c'est assez rigolo parce que... un peu l'idée, c'est que... Alors bien sûr, c'est une histoire, donc on peut rester dans le symbolique. Mais quand même, là, la question de la violence se pose réellement, parce que au début, effectivement, l'idée, c'est de faire quelque chose de purement symbolique. Puis en face, ils sont quand même tellement pas sympas que tout à coup, on décide, mais on va pas vous spoiler, comme on dit de nos jours... Il décide que quand même, ça... on reste dans le symbolique, mais c'est du concret, quoi. C'est du lourd.
Ben on se fait du bien aussi à lire ça. Il y a un côté très jouissif tout le long du bouquin.
Oui, il y a une. Moi, je pense qu'il y a. Alors après, tout est bon. Le système. Mâche et digère et récupère tout, etc. Mais d'un autre côté, redéployer un imaginaire, on va dire, de gauche, allez, disons de gauche, mais où on se fait aussi du bien. C'était ça aussi, parce que quand même, on en prend beaucoup. Dans la gueule, les uns plus que les autres, etc. Et là, c'était aussi une manière, effectivement, il y avait un côté aussi, dans l'écriture, il y avait un côté aussi un peu thérapeutique. On est en 2021, c'est le Covid, c'est pas top, la situation. Ben, qu'est-ce qu'on fait pour tenir à flot, quoi. Ben, on s'invente un truc, on le fait pas tout seul. Là, on l'a fait à deux. Avec une histoire où des gens se rencontrent et décident de faire des choses ensemble. Et puis ça marche, quoi. Hein, et puis, on sait jamais, hein. Peut-être que dans ce qui peut arriver.
Même okay. Dans le réel. Ok, tu ouvres la porte, alors.
J'ouvre la porte.
On peut reparler de ton père. Est-ce que tu veux que tout à l'heure on s'écoute un petit peu parce que tu nous as apporté une piste où on entend parler en français?
Oui, on peut, hein, effectivement. Parce que ce qu'on avait fait, c'est que j'avais été cet été interviewé et puis mon père a lui-même complété. Donc, vu qu'on a annoncé les auteurs, parce que ah, oui. On a signé avec un pseudo qui est Krill Enzon. Alors nous, mon père et moi, on s'appelle Grill Enzoni. Mais donc là, on a un peu transformé, c'est Krill. Alors le Krill avec un K, c'est tout ce qui... ce sont les organismes, même les baleines, hein, qui flottent sur l'eau et qui... tous les petits crustacés, etc. Et Zone, d'un côté, ça fait le soleil, et Son, en anglais, c'est le fils. Donc c'est et ça fait Grillanson. Et donc là, c'était c'est Krill qui, à un certain moment, complète les élucubrations de Zone au sujet du livre. Oui, ça, on peut l'écouter, ça lui fera plaisir.
On écoute, c'est parti.
Bon, je suis les autres des mains, le père, et j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que Nicolas a dit. Premièrement, je veux dire que l'écriture du grand final, ça a été très amusant. Moi, en Toscane, Nicolas à Paris, cloué aux écrans des ordinateurs, assez chamaillant sur les textes qu'on avait rédigés. Amusant, mais aussi significatif, deux générations, à la limite, deux sensibilités différentes, c'est tout à fait évident, tout à fait normal. Deux visions assez similaires, mais sur pas mal de points divergentes. Et alors, c'était amusant, significatif, et aussi, je veux dire, une bonne période de la relation entre père et fils. Qu'est-ce que je peux ajouter ? Je disais déjà, en écoutant Nicolas, premièrement, il faut que on tienne à l'esprit que la commune, c'est un saut au ciel. La commune n'avait pas de chance de réussir. C'est 72 jours de rêves, 72 jours d'initiative populaire, de joie, si vous voulez. Terminé, abouti à la semaine sanglante. Mais c'était ça. L'histoire est parsemée d'assauts au ciel. Nicolas citait la Révolution française, 48, la Commune. Moi, en tant que 68ard, j'ajouterais 68. Un assaut au ciel, même 68, n'avait pas de chance de réussir. Mais c'était amusant. C'était une période de joie et d'espoir. J'ajouterais aussi la guerre civile espagnole. Là aussi, tout le monde était contre les républicains et ils se sont battus à fond, ils ont perdu, mais ce qu'on garde encore, c'est la joie, la capacité de s'organiser, de s'auto-organiser, de ne craindre pas l'ennemi en se disant, nous, on est du bon côté. Et alors, maintenant, je suis content que l'édition française, la version française du grand final aura finalement verra les jours. On est en train d'organiser parmi d'énormes difficultés la journée du 24 mai 25, et j'espère vraiment que cette histoire, cette fable pourra être une petite contribution à la conscience du fait qu'il y a dans l'histoire des moments qu'il ne faut pas oublier. Et la commune n'est pas morte.
Eh bien, merci Fabrizio pour ces mots d'encouragement. Je crois qu'ils sont clairs. Alors, c'est drôle parce que... Il me semble que tu m'as dit que t'as des grands-pères qui sont un peu battus avec les fascistes, non ?
Oui, du côté... Donc, maternel, j'ai... Mes deux grands-parents, Franco Calamandrei et Maria Teresa Regard, étaient des résistants, mais des résistants, c'est un peu particulier parce qu'ils étaient dans les groupes armés patriotiques. Ils étaient à Rome au moment où Rome était occupée par les nazis. Et donc, ce n'étaient pas des résistants du maquis. Les partisans de la montagne, eux, ils étaient dans la ville, et c'était plutôt ce qu'on appellerait maintenant, ils appliquaient c'est des terroristes. C'est-à-dire qu'il y avait les forces d'occupation allemandes et nazies, et les fascistes aussi, et eux, ils mettaient des bombes pour les faire sauter. Et en particulier, ma grand-mère... Était toute jeune, elle avait même pas 20 ans. Elle s'est retrouvée au moment de la capitulation et après du fait qu'on a Rome était occupée par les nazis, c'était Rome ville ouverte. Les alliés devaient arriver, débarquer à Hans, etc. Et les indications, outre le fait de principe, hein, de résister, c'était de les faire chier, quoi. Mais pas juste pour le... en semant la zizanie, mais en leur tirant des balles. Chose dont mon grand-père n'était pas si fier que ça... parce que, je veux dire, si, bien sûr qu'il fallait le faire, mais tuer des gens, et surtout, c'est pas tu les en tirer, et toi tu ripostes, déjà ça doit pas être très cool de se retrouver sur le front, mais là c'était, il y a telle personne, on va le chercher et on le bute. Début de la vingtaine, tuer les gens, je pense, bon, à tout âge, hein, mais ça te marque. C'est pas quelque chose qu'après, ils en faisaient l'apologie, parce que, non, c'est la violence. Parce qu'il faut se défendre. Mais d'un autre côté, on est contre. Mais bon, on se défend. Donc ça, c'est un peu... Quand tu me disais, toi, vous êtes italien, donc par rapport à la commune, déjà, c'était un peu avant. Moi, j'ai grandi avec des grands-parents partisans, quoi. Qui ont lutté contre le fascisme. Et c'est clair qu'on en arrive un peu à... Maintenant, c'est un peu flippant, parce que y a des témoignages de... T'as mis à moi un stit et tout, et qui demande au gosse, il parle d'Adolf Hitler, et les gens, ils savent pas qui c'est. Ou bien, il y a même des adultes qui te disent, ouais, mais en fait, Marine Le Pen, on n'a jamais essayé, on pourrait essayer. Tu dis, comment ça, on n'a jamais essayé? On a essayé, c'est pas bon. Voilà, donc...
Alors c'est drôle parce que ça fait il y a cette nécessité de la violence et puis dans ton bouquin je disais ça commence par un casse et s'il y a un regret sur la commune c'est de pas avoir mis la main sur la Banque de France quoi. Donc ça aussi ça fait je sais pas si c'est fait à dessein mais ça aussi c'est on dirait un peu dans la revanche.
Après c'était le côté un peu de la fable. Alors pour en revenir, ce truc que tu disais de Dali que les gens applaudissent, c'est parce qu'en fait c'est une citation de cette série à succès qui est passée à la télé à la Casa de Papel, où effectivement il y a cette idée et donc ils ont cette idée de reprendre et c'est pour ça après que les gens applaudissent parce que les gens ils ont vu ça à la télé, ils trouvent et en fait comme le référentiel culturel de la plupart des gens, c'est quand même ce qu'ils voient à la télé maintenant. En fait, ils reconnaissent et ils trouvent que c'est chouette, quoi. Parce que. Et c'est pour ça que ça marche, quoi. Je veux dire, entre guillemets. Dans l'histoire, hein, probablement, ça n'aurait pas marché en vrai.
Ouais. Donc on va, pour te suivre, on a le site Krillenzon, alors je vais épeler, donc c'est avec un K, krillenzon.org. Bon, t'es sur Facebook, t'es...
Oui, avec la même adresse. Ouais.
Donc le livre, le grand final, et on va tâcher d'être à tes rendez-vous du 23 et du 24. Je peux te dire que tu te défonces pour faire ce que tu fais. Je t'ai vu courir après plein d'écoles, après des libraires, après des musiciens, après des groupes. C'était très bien.
Oui, je pourrais rajouter tout simplement que par rapport... Alors, on peut commander le livre via le site. Maintenant, comme les livres, ils ont vocation à être dans les librairies, il y en a à Paris... Le livre est vendu par la librairie Publico. Il est vendu aussi par la librairie du Désordre à la Butte aux Cailles. Et au mot retrouvé à Vitry-sur-Seine. Donc, si vous passez par les librairies, déjà, ça fait vivre les librairies. Et nous, ça nous allège de commencer à devoir envoyer les livres par la poste, etc. Puis c'est pas notre but. Notre but, c'est de que le livre soit sur en librairie. Pas...
Ben, il y aura le plaisir d'aller à Publico, évidemment. Il faut acheter ses bouquins en librairie, histoire de ne pas trouver uniquement ce qu'on cherche. Quoi.
Et aujourd'hui, si vous courez, il y en a même des exemplaires d'occasion sur le stand de Livres en Lutte.
Oui, sur la place de la Bastille. Qu'on va peut-être tâcher de rejoindre. Eh ben écoute, Nicolas, merci beaucoup. Je te souhaite plein de choses pour tes événements. Et puis, on va se quitter avec un petit morceau de punk. Alors, cette fois-ci...
Moi, en tout cas, je pense que même toi, on voulait quand même vous souhaiter un bon 1er mai, quand même.
Yes.
C'est quand même la journée internationale de lutte des travailleuses et des travailleurs. Allez, un bon 1er mai.
À bientôt.
quand nous chanterons le temps des cerises et guérosignol et merle moka seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moka. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. Le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les belles. Oui, faites-nous des chansons, nous les fredonnerons. Oui, faites-nous des chansons pour nous donner des ailes. Oui, faites-nous des chansons, nous nous envolerons. Si vous envolez, braves gens, aurez bien de la chance. Vous n'en aurez pas pour votre argent, pas pour votre espérance. Arrive que le chansonneur ait plus rien dans les poches, plus une miette de bonheur, plus une simple croche. Arrive que le rimailleur, là de se faire entendre ailleurs, reste dedans sa chambre, le cœur en plein décembre, et que le musicaillon bouffe le bois de ses crayons, déserté par les notes, les yeux remplis de flottes. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troula l'air, c'est pas moi qui vous vendrai du vent. Si c'est ça qu'il vous fallait, du troula troula l'air, si c'est ça, fallait le dire avant. Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les tendres. Oui, faites-nous des chansons et nous les aimerons. Oui, faites-nous des chansons qui soient douces à entendre. Oui, faites-nous des chansons et nous les rêverons. Si vous voulez rêver, braves gens, ça sera pas facile. Le rêve a pris la clé des champs, il a quitté la ville. Arrive que le chansonneur aimerait bien se taire et planquer son petit malheur sous deux poignées de terre. Arrive que le scribouilleux puisse rien écrire de mieux, que sa chandelle soit morte, frappez pas à sa porte. Arrive que le musicard ait quelques bateaux de retard, que ses soupirs débordent, qu'il ait voulez casser ses cordes. C'est pas moi qui vous vendrai du troula, troula l'air. C'est pas moi qui vous vendrai du vent. C'est ce qu'il vous fallait.